Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto-Sperber. Ukraine 2014, une révolte de la liberté avec Alexandra Goujon. L'hiver 2013-2014 restera marqué dans l'histoire ukrainienne. À partir du mois de décembre 2013 a commencé à se constituer sur la place Maïdan, dans le centre de Kiev, une occupation permanente, courageuse, héroïque, qui a résisté à de nombreuses répressions extrêmement violentes. Le week-end du 22-23 février fut une succession de coups de théâtre avec la prétendue fuite du président. Depuis, la situation évolue d'une manière qui peut laisser de l'espoir, mais d'une manière aussi dramatique, puisque des forces militaires russes sont installées en Crimée. Comment décrypter ces événements et surtout, comment comprendre la revendication européenne, la revendication d'identité propre à l'Ukraine qui se tient en arrière-fond. Merci Alexandra Goujon d'avoir répondu à notre invitation. Vous connaissez très bien cette région, vous y êtes allée pendant tout ce mois de février, pendant l'hiver 2013-2014. Vous avez publié un ouvrage intitulé « Révolution politique et identitaire en Ukraine et en Biélorussie », portant sur la période 1988-2008, donc incluant la fameuse révolution orange. Donc une première question qui pourrait informer nos auditeurs est de savoir quel lien il y a avec la révolution orange. Est-ce que c'est d'une certaine façon une revendication non satisfaite ou qui a ensuite été frustrée par le cours des événements qui se manifestent à nouveau, ou bien a-t-on affaire à un phénomène assez radicalement différent ?
C'est vrai que la révolution orange, c'est un espoir. L'espoir de mettre fin à un régime politique au sein duquel régnaient déjà à cette époque, 2004, les oligarques. Et donc il y avait un certain enrichissement aussi de ces oligarques. Et donc la volonté de rompre avec ce système que j'appelle politico-oligarchique. Et l'équipe orange, comme on l'appelle aujourd'hui, n'a en effet pas vraiment satisfait les citoyens ukrainiens qui, du coup, en 2010, ont voté un peu par protestation, aussi par adhésion, je vais le dire dans une minute, pour le président Viktor Yanukovych, alors, comme une forme de, effectivement, de dire bah, finalement l'équipe orange ne nous a pas satisfaite, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre.
Juste une précision pour nos éditeurs. Donc, la révolution, on verra que l'intitulé même de révolution est objet de questionnements. C'est un des thèmes de votre livre. 2004 était à la suite d'élections dont on soupçonnait qu'elles étaient truquées et qui avaient porté Yanukovych au pouvoir. Ensuite, ces élections ont été annulées et il y a eu pendant un moment un autre gouvernement qui s'est mis en place et qui a incarné la révolution orange, lequel a été évincé en 2010.
Tout à fait.
Quelle a été la séquence d'événements 2013? Comment ça a démarré?
Ça a démarré en fait fin novembre, à partir du moment où Yanukovych indique qu'il suspend, je vais être un peu précise, mais la préparation de la signature de l'accord d'association à Vilnius qui devait se dérouler le 28 novembre. Il annonce cela le 21 novembre. Enfin, en tous les cas, il fait une demande donc au Premier ministre de suspendre cette signature. Et un mouvement de protestation naît à Kiev, composé d'étudiants, de jeunes de la classe moyenne, en fait, qui disent « Ah, c'est pas possible, le président Yanukovych nous a promis depuis 2010 un rapprochement avec l'Union européenne, volte-face une semaine avant la signature, nous ne sommes pas d'accord. » Quelques centaines de personnes au début, 1000, et puis un événement se produit le 30 novembre, intervention de la police, avec intervention assez brutale, avec des images qui maintenant circulent beaucoup, et qui fait que là, la protestation prend une autre tournure, c'est-à-dire, d'accord, nous protestons, donc nous sommes en faveur de l'Union européenne. Pour certains qui étaient restés en retrait de cette revendication première, ils se sont mobilisés parce qu'ils se sont dit « le régime est autoritaire, il y a un enregistrement de la famille Yanukovych, mais en plus, lorsqu'on proteste, on ne veut pas, même pas nous écouter, on fait intervenir la police. » Et donc là, ça a déclenché une massification hein, du mouvement et comme vous l'avez indiqué, une occupation permanente.
Oui, mais d'ailleurs, on avait parfois, certains ont dit, c'est un campement gaulois, enfin, c'est un village gaulois qui s'est installé là. On a insisté sur les problèmes de logistique, du ravitaillement. Enfin, toute l'Europe était, toute la partie progressiste de l'Europe était un peu solidaire de ce bivouac. Mais évidemment, une très large sympathie s'est installée, d'autant que refus, résistance à la violence, du côté des occupants de la place Maïdan, peu de comportements violents. Et puis une revendication à laquelle beaucoup adhèrent, rapprochement de l'Union européenne. Mais à ce moment-là, vous avez publié un article dans Libération qui s'intitulait « On parle autant russe qu'ukrainien sur la place Maïdan ». Ça veut dire donc qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de clivage Est-Ouest. C'était les progressistes ukrainiens, d'une certaine façon, qui se manifestaient là. Quelle est votre interprétation ?
Oui, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, l'Ouest s'est mobilisé très très vite, à partir du moment où il y a eu les violences policières notamment. Et à Kiev, de toute façon, on parle russe et ukrainien. Mais à Kiev, lors des dernières élections parlementaires, les citoyens ont voté aux 2/3 pour l'opposition au président. Donc Kiev n'est pas, c'est la capitale où réside un président, mais dont la ville n'est pas en adhésion nécessairement avec ce président. Donc bien évidemment, il y a des différences régionales, mais qui se sont... Alors, on les retrouve là, après justement la fuite du président Yanukovych, mais en même temps, c'est différent, je crois d'ailleurs qu'elles sont instrumentalisées, mais en tous les cas, il y a une adhésion à l'idée que les citoyens ne veulent plus supporter ce régime et surtout ne supportent plus la corruption, en fait. Hein. Les revendications se sont vraiment élargies. Lutte contre la corruption à tous les niveaux, hein, dans la santé, dans l'éducation. C'est-à-dire que il y a vraiment cette volonté de rupture radicale. Et plus le mouvement a duré, plus c'est devenu une détermination.
Alors comment se superpose cette opposition au régime qui était en place avec le tropisme vers l'Europe ou l'attirance vers la Russie? Parce que ça, c'est une question qui est difficile à comprendre lorsqu'on ne connaît pas très bien la situation. On a l'impression que tous ceux qui sont contre ce qu'était le gouvernement Yanukovych sont forcément du côté de la Russie. Ce n'est pas du tout aussi simple, évidemment.
Du point de vue, effectivement, régional pris au sens l'Europe, hein, ou l'Eurasie, si on veut y inclure aussi... pays comme la Russie et l'Est de la Russie. En fait, ces revendications peuvent être considérées comme pro-européennes parce qu'elles correspondent à un modèle politique de type européen. Peu importe le régime parlementaire, présidentiel, mais au moins au respect de certaines valeurs, au respect du citoyen, au respect des droits de l'homme, au respect de la transparence, à l'absence de corruption. De ce fait, les manifestants sur la place de l'indépendance à Kiev manifestent pour que leur pays ressemble davantage en termes de système politique, économique et social à la Pologne, à l'Allemagne, à l'Espagne, qu'à la Russie.
Mais, et ça, les Ukrainiens de l'Est et même les Ukrainiens de Crimée, tout russophones qu'ils soient, peuvent adhérer à cette revendication.
Eh bien justement, c'est bien pour cela... que la seule marge de manœuvre, c'est de jouer sur les questions identitaires. C'est de raviver l'idée...
Vous voulez dire de la part de la répression, pour disqualifier
le
mouvement.
Tout à fait, pour disqualifier le mouvement. On voit très bien les termes qui ont été utilisés. Les nationalistes, les extrémistes, les banderistes, je pourrais en reparler, en référence à Stepan Bandera, qui a eu un rôle notamment dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Les néo-nazis, maintenant... Donc on utilise tous les dénominateurs qui vont permettre de faire monter l'inquiétude à l'est du pays, parmi notamment les russophones, effectivement dans les régions de l'est, la population est principalement russophone, ou en Crimée, c'est-à-dire de montrer que ces personnes peuvent être inquiétées par le nouveau pouvoir en place.
Alors, revenons sur cette question. Parce que tout de même, lorsque le vote sur l'indépendance a eu lieu en Ukraine en 1991, la majorité a été massive pour un État indépendant. Donc on peut imaginer que les opinions n'ont pas changé du jour au lendemain et qu'il y a une véritable adhésion à l'indépendance ukrainienne. Le rattachement à la Russie, dont on dit que certains manifestants le demandent, paraît véritablement totalement inconsidéré, de même pas rejoindre ce que les personnes souhaitent. Mais que signifie le rapprochement avec l'Europe ? Vous avez semblé dire tout à l'heure qu'au fond, l'Europe, beaucoup plus qu'une alliance géostratégique, incarnait un certain type d'exigence politique et de type de gouvernement. Est-ce que vous pourriez être plus explicite ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a d'abord l'idée donc, d'avoir un système politique démocratique. C'est la consolidation de la démocratie, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, quelque part, c'est un moyen de se libérer de la dépendance à l'égard de la Russie. Non pas de rompre tous les liens avec la Russie, mais d'empêcher la dépendance qui crée, notamment économique, qui crée un déséquilibre et qui fait que la Russie peut mener parfois une sorte de chantage dans les relations avec l'Ukraine. Et si je vais plus loin, c'est même, et ça paraît plus compliqué à comprendre encore, je pense, en France ou dans les pays occidentaux, pour un certain nombre d'Ukrainiens, le rapprochement avec l'Union européenne, voire parfois pour ceux qui veulent vraiment l'adhésion à l'Union européenne, est une manière de protéger l'indépendance de l'Ukraine.
Oui, ça c'est une revendication. J'ai dit oui parce que c'est une revendication ou une analyse qu'on retrouve souvent. C'est un moyen de garantir la souveraineté retrouvée et en même temps de faire valoir une particularité nationale, de refuser tout ce qui reste de la transition des systèmes soviétiques, c'est-à-dire le favoritisme, le népotisme, la corruption. Alors il est vrai que pour certains Européens, c'est difficile de comprendre comment une revendication nationaliste et souverainiste peut se traduire par une demande de rapprochement de l'Europe. Parce qu'on a, nous sommes tous électeurs de Habermas, l'Europe c'est le supranational, on dépasse les patriotismes nationaux. Donc là, il y a quelque chose un petit peu difficile à comprendre, qu'il faille passer par l'Europe pour retrouver au fond la légitimité de cette affirmation identitaire.
Tout à fait.
Ukrainienne.
Et je crois que c'est pour ça qu'il faut prendre une perspective historique et bien comprendre que l'Ukraine est un État moderne indépendant depuis un peu plus de 20 ans.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité ukrainienne, justement, puisque vous avez consacré un livre à cette question, révolution politique et identitaire.
Alors, cette identité ukrainienne, elle est composite, justement, elle parle... Alors moi, j'adhère assez ouvertement à la thèse du fait que la nation est construite aussi par l'État, est construite par les institutions politiques, l'école, l'armée, etc. Hein, toutes les institutions qui ont pu construire les États-nations en Europe. Et donc, l'État ukrainien, encore une fois, indépendant depuis un peu plus de 20 ans, ce qui, du point de vue de l'échelle historique, est très peu finalement.
Il y a eu une indépendance entre 18 et 20.
Oui, tout à fait, mais très brève.
Et 2 ans d'indépendance.
Tout
après
à fait,
la
très brève, auquel font référence d'ailleurs hein, les livres d'histoire actuels, une sorte de période d'âge d'or, mais qui a été tellement courte.
Mais alors, c'est quoi là, l'Ukraine ? C'est une langue ? C'est une culture ? Qu'est-ce qui fait le ciment ? Au-delà l'identité construite par les institutions,
ouais,
mais ça n'arrive que depuis 91.
Tout à fait. Alors, le ciment, c'est notamment un des ciments historiques, c'est ce qu'on appelle la Rousse kievienne, que certains, ou qu'on a traduit en français par la Ruthénie kievienne, hein, qui est donc un État qui existait avant l'État de Moscovie. Hein, qui se situait donc dont le centre était Moscou et qui était beaucoup plus petit et beaucoup plus faible. Ensuite, bien évidemment, les évolutions historiques ont fait que la Moscovie a pris du poids et autour de l'Empire russe, bien évidemment, il y a eu Moscou qui est devenu le centre et la Ruthénie kievienne s'est dissipée, s'est aussi fractionnée. L'identité ukrainienne, c'est une identité qui est, je crois, cette idée qu'on appartient, j'y reviens, à l'État ukrainien. Je pensais là récemment, par exemple, on parle beaucoup de la Crimée, je pensais aux militaires qui sont actuellement, aux militaires de l'armée ukrainienne en Crimée. et qui, eux, ont un discours, ils se prononcent peu, mais certains journalistes ont réussi à avoir des informations, ils portent allégeance à l'État ukrainien. Ils se sentent ukrainiens et ils peuvent être russophones, d'origine tatare, d'origine russe. Même, il y a des différents, il y a aussi un petit peuple appelé les Ruthènes dans les Carpates. Donc l'identité ukrainienne, elle est composite. Il y a en effet une langue. Toute la population ne le parle pas, mais il y a référence à cette langue.
Et une littérature aussi.
Tout à fait. Bien sûr, il y a une littérature, il y a un vrai cinéma ukrainien. Donc il y a des éléments, des fondements culturels qui méritent aussi d'être consolidés parce que certains peuvent être remis en cause. La question de la langue est toujours une question un peu compliquée. Oui. Récemment, enfin, en 2012, cette idée que le russe allait devenir une langue régionale, c'est-à-dire qu'il pouvait être autorisé dans certaines régions, mais jamais complètement officielle, puisque la langue ukrainienne est la langue de l'État ukrainien. Donc, ce qui fait l'Ukraine, je crois que c'est ce qui fait aussi, j'allais dire, d'autres pays occidentaux comme la France ou peut-être l'Italie, c'est le fait de se dire ukrainien. Moi, je crois quand même en cela, c'est-à-dire que tous les gens qui sont en Ukraine, quelles que soient leurs origines, se disent ukrainiens.
Mais par rapport à cela, que proposent les Russes ? Comment comprendre, d'abord, que défend la Russie ? Et du côté de l'Ukraine, en quoi la Russie peut-être est un partenaire dont on ne peut pas se passer ? Alors un simple partenaire ou alors une allégeance majeure ? Là, on peut osciller entre deux positions. Qu'est-ce que recouvre le rapprochement avec la Russie ?
Tout d'abord, la Russie a une politique, notamment depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, une politique de maintien d'une sphère d'influence dans ce que la Russie appelle son étranger proche. Donc maintenir les liens de dépendance qui ont été tissés pendant la période soviétique de manière à faire en sorte que les États qui bordent la Russie soient des États qui continuent de porter une allégeance géopolitique à la Russie et surtout ne se rapprochent pas trop de l'Union européenne et évidemment de l'OTAN. La Russie ne souhaite pas être une puissance régionale d'un seul pays. Elle souhaite être une puissance régionale d'un bloc, d'une union et Vladimir Poutine a donc créé cette union eurasiatique à laquelle appartiennent la Biélorussie, l'Arménie et le Kazakhstan. Et l'Ukraine était bien évidemment la bienvenue.
Puis il y a la Géorgie qui est en partie dépecée.
La Géorgie qui, bien évidemment, si jamais la Géorgie en venait à vouloir adhérer à l'Union eurasiatique, mais ce n'est pas vraiment pour l'instant la politique choisie, puisque l'accord d'association.
C'est tout à fait opposé. La Géorgie l'a signé. Voilà. Elle l'a payé très cher.
Elle l'a paraphé pour l'instant. Oui. Et la signature est prévue à l'automne 2014. On va voir ce qui va se passer cette année, mais ça risque de ne pas être terminé.
Elle a déjà deux provinces en état d'occupation.
Voilà,
qu'elle a payé
tout à fait.
Alors, résistance. Alors il y a évidemment une pression économique majeure. La Russie est aussi indispensable à l'économie ukrainienne.
Alors, elle est indispensable d'abord parce qu'il n'y a pas de conditionnalité politique en termes de politique intérieure. Contrairement à l'Union européenne, c'est-à-dire état de droit, justice, indépendance de la justice, etc. Ce que demandait l'Union européenne, c'est quand même la libération de l'ancienne première ministre, Yulia Tymoshenko, qui était une condition pour la signature.
Alors elle est sortie de prison et maintenant elle se reconstitue en Allemagne, enfin au début du mois de mars 2014.
Tout à fait, il est probable qu'elle soit candidate à l'élection présidentielle la prochaine. Donc, pas de conditionnalité. La Russie n'impose bien évidemment pas de démocratisation de l'Ukraine à ses accords financiers ou économiques. Il y a ensuite, il n'y a pas de conditionnalité économique, contrairement aux conditionnalités du FMI, qui demandent un budget de rigueur, qui demandent une augmentation des prix, par exemple du gaz à la consommation, donc pour les consommateurs, mesure impopulaires, des mesures donc d'économie libérale, qui sont impopulaires et qui auraient pu aussi compromettre la réélection d'Yanukovych.
Oui, mais qui donne une chance de véritable développement économique, parce que les régimes de faveur ne sont pas ce qui est en général le plus propice.
Tout à fait. C'est-à-dire que dans cette question de dépendance, l'Ukraine est dépendante d'une certaine manière, c'est-à-dire elle a une dépendance énergétique, puis une dépendance en termes d'exportation de produits qui se vendent plus en Russie, mais elle a quand même un quart de ses exportations vis-à-vis de l'Union européenne. Ce qui se passe, c'est que ces liens de dépendance ne permettent pas une réforme, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, une réforme du système économique. C'est-à-dire que tout cela est fondé sur les acquis de l'économie soviétique qu'on continue à faire vivre tant bien que mal.
C'est-à-dire industrie lourde surtout.
Tout à fait, dans l'Est, dans le Donbass, hein, l'industrie métallurgique notamment. Et donc, bien évidemment, ces réformes économiques, dont certains savent qu'elles sont nécessaires, sont aussi impopulaires, pourraient créer du chômage. Et en même temps, combien de temps vont vivre ces usines, ces mines de charbon, dans lesquelles en plus les conditions de travail ne sont pas forcément idylliques, comme on peut s'en douter. Et bien évidemment, la question qui se pose, c'est à quel moment doit-on engager des réformes économiques ? Et je crois que le président Yanukovych a fait son choix par rapport aussi à un choix politique, c'est-à-dire une réélection en 2015.
En tout cas, le prêt important qui s'annonce de la part de l'Union européenne, de la Troïka, enfin, en tout cas de différents financiers internationaux qui pourraient aller à la hauteur de plusieurs milliards d'euros sera, lui, évidemment conditionnel. Et conditionnel à la remise. Mais en même temps, il offrira peut-être les conditions d'un nouveau départ économique de l'Ukraine qui est un pays doté d'un véritable potentiel. Alors, la tension avec Moscou a eu des précédents. Il n'y a pas eu de livraison de gaz à plusieurs reprises déjà dans le passé récent. C'est-à-dire que Moscou a fermé le robinet, si je puis dire.
Oui, alors, la Russie, dans cette stratégie de maintien d'une sphère d'influence, la Russie utilise depuis plusieurs années une diplomatie économique en employant régulièrement des mesures de rétorsion. Alors que ce soit sur la question du gaz, ces mesures, notamment le fait de couper l'approvisionnement en gaz, est souvent lié au fait que, par exemple, l'Ukraine ne paye pas ses dettes gazières. Et d'ailleurs, on le voit là, en ce moment, c'est la Russie et Gazprom qui met sur la table la dette gazière.
Bon. Par ailleurs, plus d'un milliard d'euros, c'est
considérable. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est très important. Par ailleurs, il y a des mesures de rétorsion qui sont prises à l'égard de certains produits. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la signature de l'accord d'association s'approchant, la Russie a commencé à employer ces mesures dès l'été 2013. Il y a eu ce qu'on a appelé la guerre du chocolat. C'est-à-dire qu'il y a une production de chocolat en Ukraine par l'entreprise Rochen, qui est d'ailleurs un homme d'affaires proche de l'ancienne opposition, et qui la Russie a évoqué des mesures, enfin des questions de normes sanitaires pour empêcher l'importation de chocolat ukrainien qui se vendent très bien sur le marché
très
russe.
Très apprécié des Russes, beaucoup.
Tout à fait. Donc, on le voit, il y a une pression, et on peut faire des parallèles avec le vin géorgien ou le vin moldave, enfin, on a d'autres exemples de ce type. C'est fait véritablement pour montrer que si l'Ukraine veut changer de perspective économique, eh bien cela aura un coût. Un coût, et qu'il va falloir assumer ce coût. Et je crois que, bien évidemment, si on met dans la balance la proposition qui était faite par l'UE, le FMI, et de l'autre côté la proposition russe, avec, donc en décembre 2013, le fameux prêt de 15 milliards, bien évidemment que la décision a été prise par rapport à des considérations, encore une fois, économiques, de court terme, on peut dire, et politiques par rapport aux élections présidentielles prévues à l'époque pour 2015.
Alors, dernière question, est-ce que les opposants ukrainiens sont prêts ? Parce qu'ils sont moins préparés que ceux de 2004. En 2013, me semble-t-il, les réseaux sociaux, toute une sorte de dynamisation des sociétés s'est produite sans véritablement l'encadrement politique. Sont-ils prêts d'abord à respecter cette sorte de forte identité ukrainienne, mais appuyée sur une diversité incontestable? Et sont-ils prêts pour se doter des institutions politiques qui vont permettre à ce pays de traverser même une période d'assez grand danger, comme maintenant élément d'un conflit qui peut prendre des dimensions considérables, mais en otage, prise en otage par les Russes, objet d'une sorte de revendication de limitation de la puissance russe du côté des Occidentaux? Comment ont-ils la maturité, enfin l'expérience politique, sans parler de maturité, ce sera un jugement de valeur pour conduire cette transition?
C'est une question très intéressante. Je vais essayer d'être très brève et peut-être trois points quand même, trois enjeux. Le premier, qui est dans la continuité de ce que nous disions, l'État, la construction de l'État, et essayer d'éviter les divisions. De rassembler l'Ukraine qui, là, bien évidemment, avec l'intervention russe en Crimée, pose problème. Deuxième enjeu, les questions économiques. L'Ukraine est un pays qui est en état de quasi-faillite. Et là, bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a eu un appel aux organismes financiers internationaux et européens. Troisième enjeu, et celui-là nous relie directement à la mobilisation politique, c'est la question des citoyens ukrainiens qui sont extrêmement méfiants à l'égard de l'ensemble de la classe politique, y compris ceux qui sont actuellement au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement ont une expérience politique, justement une expérience qui peut laisser penser qu'ils sont en capacité d'agir aujourd'hui. La grande différence, c'est qu'il faut donner des gages, il faut se justifier auprès de la population sans cesse, parce que ces citoyens ukrainiens veulent pouvoir contrôler le pouvoir politique. Et donc, la question, le challenge pour eux, c'est de retrouver la confiance des citoyens. Et bien évidemment, ce mouvement de protestation, comme les manifestants de la place de l'indépendance le disent, n'ont pas voulu changer de nom. Ils ont voulu changer de système. Et donc, la question qu'on peut se poser actuellement, c'est de savoir comment va se transformer cette mobilisation politique, sociale, identitaire, dans le cadre d'un régime politique qui soit peut-être plus ressemblant des régimes politiques européens.
Merci Alexandra Gougeot pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Cédric Châtelus qui était à la technique. Merci à Marie Dalquier. Ukraine, un arbre dans le vent. Ukraine, un toit perdu tout blanc. La semaine prochaine sera une occasion un peu particulière puisque sur France Culture, pendant 24 heures, se déroulera la journée internationale de la francophonie, en tout cas portée également par France Culture. Et c'est donc sur ce thème que portera Question d'éthique. Jeudi prochain. Et d'ici là, très bonne semaine à tous.